Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Goût et de Luxe. Vous le savez, Goût de Luxe est tous les jours de la semaine et avec mon complice Emmanuel Rubin, eh bien nous travaillons même le dimanche. Ça va Emmanuel?
Ça va, surtout le dimanche.
Mais j'imagine. Et au programme donc ce week-end, une nouvelle fois, nous mettons à l'honneur les nouveaux talents, des talents découverts sur le salon Maison et Objets. Ils sont designers, créateurs, artisans et ils bousculent chacun à leur manière, leur discipline. Vous le verrez dans un instant, comme Julien Vermelin qui réalise des tableaux en plumes, désormais Carette qui a imaginé une lampe à fermeture éclair. ACAL Studio qui a nommé sa chaise Paulette ou encore Charlotte Julliard qui utilise de la pierre de lave pour son mobilier. Mais pour l'heure, ce sont la nouveauté de la semaine.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et on commence traditionnellement avec la table de la semaine, Emmanuel.
Nouvelle table. Alors, rentrée des tables oblige. Vous savez, au moment de la rentrée des tables, il y a des nouveautés pures et dures. Il y a des chefs qui vont, viennent, valsent. Et puis, il y a des déménagements. C'est souvent délicat pour un chef de déménager. Il y perd parfois ses repères. Là, c'est pas le cas du tout. Ce chef, on le connaît bien, l'un des plus entreprenants de Paris, Akram Benalal. Il était installé du côté du 16e arrondissement, rue Lauriston. Belle petite adresse, mais un peu petite. Il vient de s'installer durant l'été du côté du quartier Madeleine, rue Tronchet. Tout commence par vraiment un... j'allais dire, une devanture haussmannienne. On pousse une porte cochère et là, on se retrouve dans une petite cour intérieure qui, aujourd'hui, vous propose quelques tables à ciel ouvert et donc, nouveau décor. On va pas trop insister sur le décor parce que finalement, il est très pur, très minimal, très ouvert sur des jeux de lumière qui permet justement, même quand on est en salle, d'avoir un peu la vue sur cette petite cour intérieure. Mais lui, ce qui lui réussit, c'est que c'est un chef qui a de la technique. C'était un chef très démonstratif jusqu'à présent. Mais je lui reprochais peut-être parfois un manque de personnalité, de singularité. En déménageant, il y a aussi un peu de maturité, je trouve qu'il commence véritablement à avoir une touche, la touche à crame, allez, quelques plats pour s'en convaincre, son tourteau travaillé tiède avec de la chlorophylle fumée. Encore mieux, un homard travaillé moutarde et moule, ça faut le commander impérativement. Superbe, la moutarde sur le homard, c'est vrai que ça vient éponger comme ça la chair, la densité, le muscle du homard, très réussi. Son bœuf travaillé avec des sardines et une sauce café. C'est périlleux. Ah ici, ouais, ça tient formidablement. Pareil, la sardine, elle vient assaisonner. C'est salé, iodé, ça vient assaisonner le bœuf. Puis en dessert, panna cotta avec un sorbet à l'acacia. L'acacia, cette saison, un chef en pleine forme. Vraiment, à mon avis, là, il devrait créer quelques surprises au mois de février prochain du côté d'un certain Guide Rouge, en pleine forme, à crame, du côté de la Madeleine.
Rue Tronchet. Allez, bah, je vais poursuivre avec toute autre chose et on change de quartier d'ailleurs, on va dans le 3e arrondissement de Paris, mais là aussi on met en avant les savoir-faire, Emmanuel, pas les savoir-faire gastronomiques, mais tous les autres savoir-faire en tout genre. Vous savez que j'adore ça, les artisans d'art. Et là, eh bien, ils vont être regroupés dans un concept store des métiers d'art qui s'appelle Empreinte. C'est 5 rues de Picardie, 600 mètres carrés. Rendez-vous compte, c'est un immeuble entier entre le marché des Enfants Rouges et le carreau du Temple. Une scénographie d'Elisabeth Le Riche, une grande tendanceologue, comme on aime le dire. À la vente, plus d'un millier d'objets d'art, des pièces uniques, des petites séries, des chères, des pas chères. Elles sont toutes réalisées à la main dans les ateliers des créateurs. Alors, pas seulement parisiens, des créateurs français. C'est vraiment la première marketplace des métiers d'art, des bijoux, du mobilier, luminaire, cabinet de curiosité, etc., etc. Et de surcroît, Empreinte, vous pouvez y rester, peut-être vous pourrez aller y goûter, mais même parce que ceci, un café, une bibliothèque, une salle de projection, tout ceci, c'est une initiative d'Atelier d'Art de France, le syndicat professionnel des métiers d'art.
Oui, on retire là, ce qui ne m'a pas réussi malheureusement du côté du Viaduc des Arts, peut-être parce que le quartier Viaduc des Arts, 12e, c'est coincé entre la Bastille-Gare de Lyon, ça n'a jamais vraiment
pris. Et puis c'était étendu, là vous avez tout à la verticale.
Effectivement, une espèce d'unité de lieu de temps d'action, et puis un quartier, le Marais, qui est peut-être plus en phase avec et qui répondra plus à l'écoute de leur création.
Ça s'appelle Empreinte, donc c'est 5 rues de Picardie dans le 3e arrondissement. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandy Prenois, bonjour.
Bonjour. Oh,
comment ça va?
Ça va super.
Toujours aussi bronzé.
Bah,
ça va.
Ouais. Des restes.
Des restes. Comme quoi, vous ne passez pas toute la journée, heureusement, sur l'ordinateur. Mais en tout cas, vous...
Sur mon balcon, simplement.
Vous avez déniché des infos grand luxe.
Ouais. Alors, d'abord, cette maison Bulgarie qui nous surprend et qui surprend un petit peu toute la planète luxe en lançant non pas un précieux bijou, mais une application qui s'appelle Bulgarie Vault. Et en fait, Vault, V-A-U-L-T.
Vault.
Vault. Voilà. Je ne sais pas où vous me la jouez, mais... mais vous me forcez à le faire. Voilà, donc en fait, l'idée de cette application, c'est de protéger les données personnelles qu'on peut avoir sur son téléphone mobile. Alors, ça peut être les numéros de carte bancaire, les passeports, les documents de voyage, des lettres, des signatures électroniques, que sais-je. Tout ça sur l'application. Il y a 4 clés d'accès sur cette application qui vont permettre de sécuriser au maximum ces données. Évidemment, le code, le petit truc tactile là qu'on fait glisser, etc., la reconnaissance faciale. Bref, tout un tas de choses. Et tout associer ensemble pour surprotéger son téléphone.
Mais pourquoi c'est Bulgarie qui fait ça? C'est pas son métier?
Je ne sais pas.
Diversification.
Exploitation de son nom, etc. C'est un service. Alors justement, le service, les clients de la marque qui sont habitués aux bijoux vont pouvoir aussi très prochainement découvrir de nouveaux services via cette application. C'est pas encore fait pour le moment, c'est pour tout le monde. Et ce le sera toujours d'ailleurs. Mais les clients vont pouvoir avoir accès aussi à des certificats d'authenticité, ce genre de choses, via l'application. Et ça, c'est très prochainement.
Et voilà. Et autre chose, grâce à vous, on va pouvoir participer à un concours sur Instagram.
Oui, grâce à moi uniquement.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Attention, accrochez-vous.
Voilà. Alors attention, les chaussures Clergerie, eh bien, vous avez jusqu'à ce week-end pour poster une photo de vous habillée en une femme et en une femme chaussure Clergerie, tout ce que vous pensez être cette femme-là. Vous postez sur le compte Instagram en utilisant le hashtag ClergerieGirl à gagner beaucoup de choses. Des chaussures, d'abord.
Évidemment,
tout au long de l'année, pour celle qui va gagner, elle recevra des chaussures de la marque. Elle va pouvoir aussi créer son propre modèle en collaboration avec Roland Mouret, directeur de la création, et puis l'équipe aussi de style. Un accès à la Fashion Week du 27 septembre au 5 octobre prochain, et puis la visite de la manufacture à Romans-sur-Isère.
Et oui, c'est Made in France, hein, on le rappelle, Robert
Clergerie. Bien sûr, c'est Made in France. Donc Roland Mouret, et puis la blogueuse londonienne qui s'appelle Camille Charrière, alias Camille Over the Rain, ils décideront de cette gagnante.
J'avais bien qu'à un moment
j'étais
je regarderais.
À l'anglais aujourd'hui. Ils décideront de la gagnante le 14 septembre prochain. Donc allez-y, c'est jusqu'à ce week-end.
Et voilà,
des chaussures à la clé.
Et donc petite prolongation pour que Sandy Prenois puisse vous en parler, pour vous laisser un petit peu plus de temps pour ce concours Robert Clergerie.
On est obligé de mettre en scène des chaussures Robert Clergerie.
Non,
n'importe quelle chaussure.
Non, vous n'avez rien compris alors. Habillez.
C'était pas clair.
Ah mince. Vous vous habillez comme vous voulez du moment que ça représente la femme Clergerie.
Là,
et
voilà.
Vous postez votre photo comme vous le souhaitez avec le hashtag ClergerieGirl.
Vous n'êtes
c'est
pas une femme
là,
de toute façon.
Hein?
Vous n'êtes pas une femme de toute façon, Emmanuel.
Non, mais j'en connais.
Vous voulez vous mettre du rouge à lèvres?
Non.
Justement, on va parler de maquillage.
Oui, on en parle de maquillage, pas
ah,
que.
Ah, c'était ça votre transition?
Ouais.
Toute pourrie.
Toute pourrie.
Ah oui.
La transition, c'est avec Anastasia Sohar qui est là. Alors là, c'est l'histoire à l'américaine. C'est une maquilleuse professionnelle qui débute à Los Angeles, qui vient de Roumanie. Elle s'est lancée dans le sourcil. Sa première cliente, ça a été Cindy Crawford, évidemment. Gros boom, parce qu'elle se rend compte qu'elle épile les sourcils de Cindy Crawford, qu'elle n'a aucun matériel pour les sourcils.
Quoi ?
Si ce n'est la pince à épiler, mais rien d'autre. Donc elle utilise l'eyeliner et les brushes et tout ce que vous voulez. Donc elle développe sa propre marque. Elle crée des produits spéciaux sourcils. Elle est interviewée à ce moment-là par, comment elle s'appelle ? Oprah Winfrey, bien sûr, la présentatrice télé américaine, etc. Et là, ça bascule. C'est une carrière absolument exceptionnelle. C'est la reine du sourcil. Julien, notre producteur, l'aimait beaucoup, hein. Ce surnom. Donc voilà.
Et donc, si vous nous en parlez aujourd'hui, c'est parce qu'elle débarque
en France, chez Sephora, avec sa marque Anastasia Beverly Hills. À découvrir. Si vous voulez des sourcils.
Voilà,
parfait.
Magnifique. Merci beaucoup, Sandy Prenois. Vous restez encore un petit peu avec nous. On a deux, trois infos. Tiens, le bar.
Ah, premier bar de la saison.
Ça commence.
Allez,
bien.
On va lever notre verre à la rentrée avec un bar qui existait déjà, mais c'est totalement relooké. C'est le bar du Shangri-La. Il était plutôt dans l'esprit impérial. Il rendait hommage à la famille Bonaparte. Et parmi eux, un certain Bonaparte, pas le plus célèbre, mais qui avait une passion pour la botaniste. Alors le bar du jour, mais nouveau nom, nouveau décor, et aussi une nouvelle ligne de fuite. Alors le bar s'appelle Botaniste, il joue un petit peu dans la décoration, un peu l'imagerie, vous savez, des apothicaires. Le barman, alias Arnaud Tirel, a travaillé toute une carte en jouant sur les alcools les plus aromatiques possibles, les fameux Genépi, les absinthes, les chartreuses. Ça va être plutôt bien dans cette période où on va glisser petit à petit vers l'hiver. C'est des alcools qui accompagnent bien, j'allais dire, il manque plus qu'une cheminée. Et puis surtout, ils ont une politique aussi un peu de résilience, puisqu'ils inviteront, ça se fait souvent en matière de cuisine, cuisine, dans les palaces, un peu moins dans les bars. Aujourd'hui, ça va commencer. Ils vont inviter parmi les ballermans les plus importants au monde qui viendront comme ça pour une semaine. Ça a commencé cette semaine, c'est fini malheureusement. Alors, c'était une vraie légende. Marianne Beck, c'est certainement l'un des plus grands barmen au monde. Il a passé une semaine à Paris, mais il y en aura d'autres.
Et ben,
les barmans invités.
Et ça s'appelle le Botaniste. Et c'est donc au Shangri-La, avenue Iéna, à Paris. Allez, j'avais un petit bar à Cotel aussi, mais je vous en parlerai la prochaine fois parce que.
Ah
mais oui.
On s'y met.
Parce que je voudrais vous parler d'un autre magnifique flacon qui est le nouveau parfum Hermès. Vous l'avez vu, ce nouveau parfum Hermès. Il s'appelle Galop d'Hermès, tout simplement. Et c'est la première vraie grande réalisation de celle qui succède à Jean-Claude Elena, qui s'appelle Christina Nagel. Et vous avez, ça s'appelle Galop d'Hermès, donc un flacon en forme d'étrier, que vous très réussi le flacon, parce que c'est difficile de se renouveler en matière de flacon. Vous pouvez y rajouter un petit lien en cuir, comme ça, c'est vraiment so chic. Bien sûr, ouverture aimantée. Et alors là où c'est drôlement osé, c'est dans la fragrance, parce qu'elle mélange la rose et le cuir. Ça n'a pas vraiment ensemble au départ, mais du coup, c'est assez réussi et vraiment différent. Il y a des petites notes de coing et de safran. Bon, j'en parle pas aussi bien que Lionel Paillès qui viendra bientôt sur ce plateau, mais vraiment, on est dans une vraie belle originalité pour ce parfum Hermès. Et je voudrais terminer sur la représentation autour de la terre. Il y a toute une communication autour de la danse qui est absolument toujours magnifique comme chez Hermès.
Et dans le même temps, c'est peut-être une manière de manifeste de la part du nouveau-né de chez Hermès, c'est qu'elle rend hommage aussi aux grands flacons. D'abord le nom Galop, ça rappelle Amazon, équipage, vous savez, il y avait toujours un nom qui évoquait l'équitation. Et puis aussi, souvent, le flaconnage évoquait le monde de l'équitation. Ils reviennent un peu à ça. C'est un parfum certainement novateur, Lionel nous le dira, mais en même temps, qui rend hommage à la maison.
C'est osé.
Osé, mais contrôlé.
Tout à fait.
On a bon calme et droit, vous savez bien.
On l'imagine bien. Merci beaucoup, Sandy. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et nous, on va vous faire découvrir de nouveaux talents, parce que vous n'êtes pas tous passés, j'imagine, sur le salon Maison et Objets, mais ils sont là aujourd'hui, les talents à la carte, sur le plateau de Good Luxe Paris.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, le luxe de la semaine.
Et encore une fois, Good Luxe met les talents à l'honneur. Et on est même allé piocher sur le salon professionnel Maison et Objets qui se tenait il y a juste quelques jours à Villepinte. Les talents à la carte 2016. Et ils ont mis en avant ces jeunes créateurs qui ont été déjà repérés par les ateliers de Paris. Donc autour de la table, nous avons... On va commencer par Charlotte Julliard. Bonjour.
Bonjour.
Comment on vous présente? J'avais mis architecte, design, designer.
Oui, designer, architecte d'intérieur, c'est très bien.
Très bien. ça vous va. C'est toujours la grande question. Pour représenter le studio de design ACAL, Amandine Shaw, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Nathanaël Desormeaux, bonjour.
Bonjour.
C'est Desormeaux Carrette, donc vous êtes la moitié de Desormeaux Carrette.
Ouais, complètement, cofondateur.
Et puis, Julien Vermelin, qui se suffit à lui tout seul, créateur plumacier, artiste plumacier d'ailleurs.
Artiste plumacier, oui.
C'est ainsi que vous vous définissez. Donc tous les quatre, vous étiez avec vos petits objets au salon Maison et Objets. Première question, justement, Charlotte, comment ça s'est passé? Bon, vous avez fait des affaires, j'imagine, mais est-ce que c'est un vrai tremplin? Qu'est-ce que on attend ça quand on travaille souvent dans son petit studio, même si on est deux, le retour des professionnels, le retour des spécialistes, des experts?
Non, mais c'est vrai que pour tous les quatre ici présents, je pense que ça a été un très beau tremplin proposé par à la fois le Salon Maison Objet et les Ateliers de Paris. Et donc c'est vrai que pour nous tous, ça a été vraiment une opportunité de rencontrer des professionnels de nos milieux, des journalistes, également des visiteurs, des particuliers, et d'avoir le retour de tous ces gens-là sur notre travail. Je pense que c'était vraiment une chance et une très belle opportunité.
Nathanaël, vous êtes venu chacun, Nathanaël Desormeaux, avec vos petits bagages, avec quelques-unes de vos créations.
Tiens, au côté petit bagage.
Avec vos grands bagages, mais c'est vrai que c'est important le choix, parce que vous êtes des entreprises toutes jeunes, en tout cas des créateurs tout jeunes. Donc comment on choisit, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant?
Dans notre cas particulier, on a essayé de raconter une histoire et finalement on a sélectionné tous nos objets qui tournaient autour d'un thème qui était le thème du salon Maison et Objets, à savoir le jeu.
Ah oui.
Et que ce soit des vrais jouets qu'on ait présentés ou des objets plus décoratifs mais qui ont un côté un peu ludique.
Mm-hmm. Donc par exemple
en l'occurrence, une trottinette pour l'objet principal qu'on a.
Oh, on va y revenir à votre trottinette.
Manifestement. Et d'autres, on a présenté des petits porte-bouteilles qui, en plus d'avoir la fonction de porte-bouteille et qu'on peut trouver dans les cuisines, ils viennent s'emboîter les uns les autres et ça devient un objet modulable, presque un jouet de construction.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez complètement différemment sur d'autres matériaux que Julien Vermelin qui est à côté de vous. Et pourtant, vous êtes tous des jeunes talents à
moyenne
la carte.
D'âge,
ouais, moyenne d'âge, on est quoi, moins de 30 ans.
15, 14.
Écoutez, le vieux.
Avec 10 ans de plus,
on ne peut pas demander à ces dames, mais vous êtes tous les deux moins de 30 ans, tout jeunes.
Ouais.
Julien Vermelin, vous, artiste plumassier, oui. Est-ce que à un moment donné, vous vous êtes demandé, pardon de la question, hein, qu'est-ce que vous faisiez au milieu de tous ces designers?
Je me suis posé la question au début, oui.
Vous êtes senti seul?
Complètement. Sur le salon?
Oui, au milieu de ça, pas du tout.
Je t'ai accompagné. Mais non, je me suis posé la question, effectivement, parce que moi, je suis pas du tout dans le design. C'était vraiment, en plus, sur Maison Webzel, j'ai présenté que mon travail artistique. Mais en fin de compte, j'ai eu beaucoup de retours d'architectes d'intérieur qui ont redécouvert la matière, qui pensaient pas du tout qu'on pouvait l'intégrer sur des panneaux, au mur ou sur vraiment de la surface. Et ça a été vraiment très intéressant.
Parce que c'est ça qui est intéressant. Vous, la plume, c'est vrai que quand on parle plumassier, on pense à le marié, on pense à la mode, on pense à la couture.
Oui.
Sauf que vous, vous l'avez travaillé, découpé, même si vous êtes passé chez le marié, bien sûr, parce qu'il y a des grands, mais vous avez fait aussi un BTS de design de mode. Mais sauf qu'après, vous l'avez apprivoisé, cette plume, et là, vous présentiez, par exemple, des tableaux, et vous faites un fond totalement noir.
Oui.
Voilà. Et du coup, on a un nouveau matériau.
Bah là, c'était une impression presque d'ardoise ou de métal. Et il y en avait un autre, on aurait dit presque de la coquille d'œuf. Et il y avait aussi Gustave, le tapis ours en plume, qui était présenté, qui était peut-être la chose qui s'apparentait le plus à du design d'objet. Oui.
Et on va voir effectivement tout ce que l'on peut faire avec la plume. Mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée, Emmanuel.
Et l'Amandine, alors, sentiment, retour de ce...
Ah oui, c'était une très bonne expérience.
Maison et objet 2016.
Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire maison et objet en tant que visiteur à chaque salon. Et là, on a eu l'opportunité incroyable de pouvoir présenter nos projets.
De l'autre côté de la barrière.
Voilà, on est de l'autre côté de la barrière, donc c'est intense parce que pendant 5 jours, on est là, on est présent et on voit beaucoup de monde. Mais l'échange est très intéressant et comme disait Charlotte, on rencontre des personnes de tous les domaines, qu'ils soient journalistes, entreprises, contacts professionnels pour de futures collaborations, mais également designers et étudiants et c'est très intéressant.
Et on les a évoqués parce que finalement, maison objet quand même, tout le monde ne peut pas accéder au salon, mais c'est une vraie caisse de résonance, il est célèbre, il a plus besoin de parler. En revanche, on les a évoqués, les ateliers de Paris. Peut-être l'un de vous peut expliquer ce que sont les ateliers de Paris, parce que le grand public ne connaît pas véritablement ce que sont ces ateliers de Paris. Bah tiens, ça tombe bien, Charlotte. Vous vous collez. Définition. C'est un peu grâce à eux que vous avez pu intégrer cette année.
Oui, c'est carrément grâce à eux.
En fait, c'est vrai que cette année, ils ont fait un partenariat entre Talents à la carte et les ateliers de Paris. Mais pour revenir sur les ateliers de Paris, en fait, c'est une structure qui appartient au service de la ville, donc qui dépend de la mairie de Paris, et qui a en fait un incubateur spécialisé dans 3 domaines qui sont les métiers d'art, le design et les métiers de la mode, et en fait qui invite des jeunes créateurs porteurs de projets à venir en résidence sur 3 sites dans Paris, un à Bastia, un à Fédère et l'autre au Viaduc des Arts, pendant 2 ans, et donc de bénéficier d'un local, d'un espace de travail.
Manière de Villa Médicis au plein cœur de Paris.
C'est ça. Et au-delà de juste l'espace, il y a également un accompagnement, donc des formations, des gens qui sont là pour nous aider, voilà.
Et sincèrement, là, puisque vous y êtes actuellement, il y a vraiment cette émulation, c'est ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est un peu la Villa Médicis, très bien, mais parfois... J'ai jamais été. Hein. Ils sont dans leur projet, enfermés dans leur projet, un peu dans leur piole, et finalement, tout ce qui serait émulation, échange, n'existe pas. Ce qui est la vertu d'un incubateur. Est-ce que vous, finalement, en vivant ces ateliers, vous dites, non, justement, on va à l'autre, on s'enrichit, on apprend?
Ouais, ouais.
Nathanaël, désormais.
Absolument. À partir du moment où on fait cohabiter des spécialistes, que sont les artisans d'art, comme Julien, ou enfin, les artistes, plus Julien, et des non-spécialistes comme nous, les designers, on pratique un peu tous les matériaux, et ben, forcément, il y a des connexions qui peuvent se faire. Et c'est là qu'on arrive à décloisonner un peu nos spécialités.
Sauf que vous êtes quelque part spécialiste quand même, parce que quand on regarde ce que vous faites vous, par exemple, et ce que fait le studio ACL, on n'est pas forcément ni dans la même démarche, ni dans le même résultat final.
Je pense qu'on est les garants, enfin notre spécialité, c'est notre démarche, mais on n'est pas des spécialistes d'une matière, on n'est pas les spécialistes d'une forme.
Vous n'êtes pas des monomaniaques. Non, mais comme sont souvent, et c'est toute la beauté de l'artisanat d'art, c'est que c'est vrai qu'ils vont travailler sur une matière. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas la réinventer, mais le geste, la réflexion, on l'a vu avec les plumassiers, avec les brodeurs, toute une vie passée à travailler, à faire évoluer autour d'une matière. Vous êtes plus au carrefour des chefs d'orchestre.
Moi, je crois fort que vraiment, en tant que designer, c'est en allant voir dans d'autres spécialités qu'on enrichit la nôtre.
Mais c'est vrai que vous, par exemple, vous avez désormais au Carrette une démarche particulière. Vous revendiquez haut et fort votre formation de design industriel.
Oui, absolument.
Et c'est comme ça que vous avancez. Quand on parle de design industriel, ça veut dire qu'on est plus sur l'engineering, qu'on est plus sur l'architecture de l'objet ?
Je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment important et qui est au cœur de notre métier, c'est le fait que notre design soit reproductible. Et reproductible dans la série la plus grande possible.
Série industrielle.
Ouais. Et ça, forcément, ça va venir avoir des retombées sur la manière dont on pense l'objet et son résultat final, sur ses formes.
Ouais. Alors,
un peu la nature quand même historique du design, ce qui est en vérité la définition propre du design, c'était d'être quand même un objet pratique, diffusé. Aujourd'hui, on est obligé d'employer le mot design industriel tellement les designers sont peut-être partis un peu du côté des galeries, des artistes. C'est pour ça que vous préférez dire non, on est vraiment des designers avec cette volonté quand même du sériel à la fin de produire nos pièces et nos créations.
Ouais, c'est un terme qu'on aime bien revendiquer. Ouais.
Alors, exemple, vous présentiez sur Maison et Objet la chaise Note, la lampe Dita. On parlait de la trottinette à la galoche tout à l'heure, mais la lampe Dita, par exemple.
Alors, la lampe Dita, qui n'était pas présente sur le salon Maison Objet, c'est une création antérieure, mais la lampe Dita, c'est une lampe en feutre découpé, et on s'est intéressé à comment donner à un morceau de tissu, un morceau de feutre, un aspect 3D, puisque ce qui nous intéresse en tant que designer, c'est la formation, la forme, et du coup, via une couture, on a réussi à donner cette forme 3D et finalement, elle avait un zip qui permettait de déshabiller la lampe et de moduler la luminosité.
D'accord. De la D'où Dita, en hommage à Dita Fontis, l'effeuilleuse.
C'était un petit clin d'œil.
C'est vrai, je suis sûr que c'est vrai.
Absolument.
Donc ça, c'est pour vous donner des exemples très concrets. Je vais peut-être vous poser la même question, d'ailleurs, Amandine Champ. Choisissez l'un des objets que vous avez présentés sur Maison et Objets pour essayer de le décrire. C'est toujours compliqué, effectivement, mais pour donner à entendre, finalement, quel est l'esprit d'ACL Studio?
Déjà, je vais rebondir sur la question que vous aviez posée juste avant.
Laquelle on a posé déjà beaucoup.
Vous disiez que Nathanaël et moi, par exemple, on était deux spécialistes nos... En fait, oui et non, c'est-à-dire qu'on a peut-être deux univers ou des références différentes, avec peut-être un style, entre guillemets, différent. Mais après, ce qui fait vraiment le point commun du métier de designer, c'est d'aller au contact de matériaux différents, de collaborateurs différents, et de s'immerger dans des contextes où on va comprendre justement un process, etc., pour pouvoir proposer un projet adapté. Donc on n'a pas, là sur le stand, notre stand, on a présenté une collection qui était essentiellement à partir de bois et métal, qui est en cours d'édition avec différentes marques. Mais après, on n'a pas envie justement de se spécialiser dans un matériau.
Justement, qui reprendrait un peu cette trilogie que vous venez de dire, des collaborations extérieures, des matériaux inattendus ou nouveaux ou différents en tout cas, et puis un contexte, comme un écosystème sur lequel vous auriez travaillé. Quelle est la pièce que vous présentiez à Maison et Objet qui rebondirait et répondrait un petit peu à cette philosophie?
Alors, les pièces là, qu'on a présentées sur Maison et Objet sont des pièces plutôt de design d'édition. C'est-à-dire qu'on travaille avec des marques comme Petite Friture, Artaud ou Cannes Design.
Qui sont des jeunes, qui font partie de la nouvelle génération des maisons d'édition.
Tout à fait. Et qui, du coup, développent en fait les projets avec nous et qui, après, les commercialiseront. Et alors, pour prendre un exemple, on a la Dojo, enfin le fauteuil Bridge Dojo, sur lequel on travaille depuis maintenant 2 ans déjà, qui est en fait un fauteuil bridge avec des lignes plutôt épurées parce qu'on est on aime bien en fait des objets qui vont plutôt valoriser la fonction et s'inscrire dans un style intemporel. Donc on va travailler vraiment les détails pour pouvoir quand même marquer une différence parce qu'on est très nombreux et on le voit aussi d'ailleurs à Maison et Objet, il y a beaucoup d'exposants.
Et il faut pouvoir émerger. Hein.
Oui, effectivement, c'est pas évident, mais on accorde beaucoup d'importance à la qualité du produit, des détails, la rigueur des proportions, etc.
Moi, j'ai une question à vous poser un petit peu à tous. C'est comment vous donnez vos noms? Parce qu'on est presque... C'est assez rigolo. Autant on parlait de Dita Vontis. Alors, on a chez vous, on a Dojo. On a Dojo, on a Paulette. On a Paulette et Fur, Eugénie et Anatole.
Vous voyez, j'arrive à les décrypter. Dojo, ça a donc bien rapport avec l'endroit où les karatéka et les judoka vont... La salle de...
Oui, tout à fait, c'est ça. C'était aussi en référence justement à ce côté un peu graphique des lignes noires, très épuré, avec un côté effectivement pas évident ni simple, mais voilà, quelque chose de très épuré qui se lit facilement.
Alors, chez Desormeaux et Carrette, on redonne la trottinette La Galoge, la lampe Dita, la chaise Note, le bougeoir Manitou, la chaise Paddock.
Ouais, en général, on essaye de faire des noms qui sont des clins d'œil à la narration de l'objet. Donc, il commence à raconter un petit peu le concept par lequel on est allé rentrer.
C'est important, ça, de donner un nom à son objet, ou on pourrait imaginer.
Je pense qu'à partir du moment où on lui donne un nom, il existe, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, en général, tout le temps du processus, il n'a pas de nom, et on aboutit finalement sur l'objet, et là, on le baptise. Ouais.
Julien Vermelin, quand vous faites un grand tableau noir, vous l'appelez Surface Noire.
Oui, il était moins personnalisé, mais l'ours, par contre, je l'ai appelé Gustave.
Et voilà.
Et ben voilà.
Et quand
et alors vous, à la
attendez,
fin,
juste, j'aimerais Bado Senshi, parce que ça, c'était l'une de vos œuvres. Je suis désolée, on vous la ressort à chaque fois, mais elle est quand même extraordinaire.
Bado Senshi, bah, ça veut dire guerrier oiseau en japonais. C'était voilà.
Tout simplement. Cette armure en plume noire, entièrement réalisée par vous et entièrement réalisée entièrement, à la main, oui. Tout simplement guerrier japonais. Voilà, j'éviterai poser des questions
sur les noms d'Aden, pareil de vos
c'est produits, un peu c'est ce que oui c'est un peu ce que disait Nathanaël justement, je trouve que ça donne une ça personnalise aussi l'objet, ça lui donne vie d'une certaine façon.
Et puis ça instruit aussi peut-être sur le matériau utilisé, je pense.
Oui.
Hein, par exemple.
Et la collection, enfin pour ma part, la collection que j'ai présentée, enfin les pièces que j'ai présentées à Maison Objet font partie d'une même collection qui s'appelle la Vasto, donc j'ai pas donné de pièces par objet. Mais toutes les pièces s'appellent la Vastone, donc on a le guéridon, le miroir et la méridienne.
On fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve juste après.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Allez, c'est reparti pour une demi-heure de goûts et de luxe. Nous sommes toujours en compagnie de quatre talents à la carte qui ont exposé leurs objets lors du salon Maison et Objets. Justement, nous sommes donc toujours avec Charlotte Julliard, avec Amandine Chor du studio ACL, avec Nathanaël Desormeaux, c'est Desormeaux Corrette, et avec et avec Luc Plumassier, Julien Vermelin. On parlait justement du processus de création, juste avant la petite pause sur BFM Business. J'aimerais comprendre un petit peu, pourquoi déjà la plume, ça vous a intéressé? Parce qu'on disait au départ, c'est plutôt la mode, on se dit c'est plutôt un truc de nana, mais n'empêche qu'il y en a plein, des hommes. D'abord, il y en a chez Le Marié, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Maxime Leroy aussi, qui est assez talentueux. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans la plume?
L'intérêt de la plume, c'est que c'est une matière qui n'a pas de limite, on peut la teindre, c'est une matière qui prend très bien la couleur, on peut la recouper, la friser, la brûler, la graver au laser, donc c'est comme de la peinture, mais en plus... C'est ça, avec toutes les textures, et on peut l'appliquer sur n'importe quel support.
Sauf que pendant des années, on n'a jamais osé le faire, ça. C'est peut-être ça aussi qui est nouveau. On l'a respecté.
Je pense que pendant des années, effectivement, on l'a vraiment cantonné à la mode, au chapeau, à des choses un peu convenues sur les cabarets, les revues. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on se rend compte qu'on peut vraiment en mettre partout, sur du métal, des murs, vraiment tout support. Et...
Qu'est-ce que vous avez fait de plus incongru? En plume, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Ou quelle collaboration? Ou quel objet?
De plus incongru?
De plus audacieux, de plus vindicatif, de plus inattendu. Comme vous dites, vous l'avez déjà travaillé presque comme une autre matière dans des moments, dans des environnements inattendus, mais quel serait...
Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur des panneaux qui font 2 mètres par 1,70 m.
Donc c'est de la plume d'autruche, là?
Non,
justement,
c'est pas des plumes si grandes que ça, c'est des petites plumes de dinde. Et c'est pour un hôtel au Kazakhstan, pour la chaîne Saint-Régis, et je travaille en partenariat avec Atelier 27. Et ils m'ont commandé des panneaux gigantesques. Je crois que c'est la chose la plus grosse que j'ai faite pour l'instant.
Et c'est ça devient comme un lettre papier peint, finalement.
C'est exactement ça, oui. Ça devient part entière du mur pour décorer le lobby. Ouais.
Mais et ça vieillit bien?
Ils vont être sous verre. Mais la plume vieillit très bien, mais là, ils seront sous verre.
C'est ça qui est étonnant, alors qu'on pense que c'est totalement fragile.
Non, c'est très stable.
Mais vous êtes tombé amoureux de la plume quand? Sincèrement, vous avez une vraie formation, vous?
Oui, il y a
avant cette formation, il y a bien eu un moment donné, cette matière, c'est pas un petit, vous faisiez des batailles de polo au fond.
Non, j'avais ma grande tante qui était une grande parisienne, qui était toujours bien habillée, avec des chapeaux et des choses en plume. Et au début, je voulais faire des chaussures. J'ai travaillé chez Jean-Paul Gaultier, où je dessinais des chaussures, et là-bas j'ai rencontré un plumassier qui s'appelle Dominique Pillard et qui a, je pense, 50 ans d'expérience, et c'est lui qui m'a transmis la passion. Et ensuite j'ai fait un CAP plumassier, parce qu'il reste une école en France.
Oui. Un seul lycée, je crois.
Un seul lycée, Octave Feuillet, oui, qui est je pense que ça doit être le seul au monde à enseigner la plumasserie.
Et... à peu près, je pense qu'il n'y a pas que la France, je crois, qu'au monde.
Oui, je pense que ça doit être le seul au monde, oui.
Et vous avez évoqué très rapidement, là on parlait de plume d'autruche, j'ai dit non, la plume de dinde, quand on travaille comme ça avec la plume, j'allais dire, la palette. C'est combien de plumes, d'espèces, de couleurs? Est-ce qu'il y a encore des plumes qu'on n'a pas travaillées, qu'on pourrait travailler?
Alors, il y a énormément d'oiseaux protégés maintenant, et heureusement. Et du coup, on a le droit d'utiliser que les plumes d'oiseaux comestibles. Et moi, j'essaye en plus d'utiliser que les plumes d'oiseaux qui ont été élevées pour la nourriture, pour pas utiliser de plumes d'oiseaux élevées pour les plumes. Mais après, combien ça fait de plumes? Je pense une centaine de milliers à peu près.
Ah, vous avez quand même un orgue de plumatier assez.
Et puis après, vous rachetez des stocks, c'est ça?
Je rachète des vieux stocks.
Et après, vous pouvez les colorer.
Et après, je fais les teintures moi-même, on les coupe, on les brûle, on les frise, donc c'est infini, oui.
Bon, ça vous inspire? C'est vrai qu'on passe un peu du. Qu'est-ce qui est plus lourd? C'est un kilo de plume ou un kilo de plomb? Un kilo de plume ou un kilo de pierre de lave? C'est un petit peu ça l'idée. Pourquoi vous êtes allé chercher la pierre de lave? On en parlait juste avant la pause. Lava Stone, c'est votre dernière ligne autour de la pierre de lave. Pourquoi vous êtes allé chercher ça?
Écoutez, en fait, j'ai eu la chance dans mon parcours de travailler pendant une période d'un an et demi en Italie. Et dans la région du Veneto, autour de Venise, j'ai fait une résidence qui s'appelle La Fabrica, qui est un centre de recherche et de communication.
De Benetton.
De Benetton, exactement, qui invite une trentaine de créatifs dans plusieurs domaines, donc pas uniquement le design.
La chance, vous êtes souvent invité, vous, la Fabrica.
Également, je suis très souvent invité. J'ai beaucoup de chance. Et en tout cas, tout ça pour dire que j'ai énormément collaboré avec des artisans pendant mon séjour en Italie. Et donc, notamment, j'ai pu découvrir cette matière dans des carrières, puisqu'elle est travaillée essentiellement dans deux endroits en Italie, en Sicile, grâce à l'Etna, et à Naples avec le Vésuve. Et donc, on y trouve encore des exploitations de pierre de lave. Et c'est une matière qui, en fait, peut-être assez inattendue, pas encore très utilisée, parce que c'est une matière assez, qu'on trouve pas partout, donc,
assez
noble. Et j'avais très envie de faire depuis un moment quelque chose avec cette pierre. Et c'est vrai qu'on dit souvent que mon travail est assez féminin. Et puis j'avais justement envie de me confronter.
C'est féminin.
Non, mais j'avais envie de me confronter à un matériau peut-être.
Plus viré.
C'est vrai,
quand tu vois de la lave, il suffit de se balader sur l'Etna, c'est vrai que c'est une.
Oui, un peu sombre,
assez dense,
exactement.
Qui en impose et qui n'est pas évidente, qui donne certainement envie de travailler, mais qui n'est pas évidente à travailler. Non. D'ailleurs, je ne sais pas comment on la travaille. Est-ce qu'elle est fragile?
En fait, c'est une pierre qui est très fragile, contrairement par
comme
exemple.
Comme les hommes.
Contrairement aux marbres.
Vous disent.
Qui casse très facilement, qui c'est pas du tout facile à exploiter et à travailler.
Mais c'est ce qui vous a plu, on
sent. Mais c'est ce qui m'a plu parce que c'était un challenge.
Il y a ça, mais en même temps, et ça rejoint aussi tout votre travail, vous avez tous le souci, vous êtes quand même des designers, donc il faut qu'il y ait une fonctionnalité. La matière aussi a des vertus parfois. Alors, au-delà peut-être de l'esthétique propre à la pierre de lave, quelles sont ses vertus? Elle est résistante, elle prend bien la chaleur, ou vous en fichez complètement? Vous dites non, moi c'est juste dans le pierre de la lave.
Non, pas du tout. Je trouve que c'est très intéressant en tant que designer, quoi qu'il en soit, quand on se confronte à une matière, d'en connaître les propriétés, les capacités, les façons de l'utiliser. C'est vrai que dans le cas de la pierre de lave, je connaissais pas non plus très bien cette matière, donc il y a toujours, je pense, pour chacun de nous, une phase de documentation, de recherche, d'échange avec des artisans. Pour le cas de la pierre de lave, c'est une matière qui, enfin, c'est de la pierre, donc on retrouve les propriétés, les vertus de la pierre, l'isolation, des choses comme ça. Maintenant, en revanche, c'est vrai que comme je l'ai travaillé sur le mobilier, je l'ai essentiellement choisi pour ses propriétés. Esthétique, graphique.
Vous avez fait. On y va, le mobilier.
J'imagine, il n'y en aura pas des milliers, en tout cas, parce que c'est compliqué. Comme vous disiez, c'est une matière assez rare. Nathanaël Desormeaux, vous travaillez donc en duo avec votre ami Damien Carrette pour ce studio de design. Ça fait un peu plus de 2 ans. En fait, non, ça fait. Vous avez créé votre studio il y a quoi, un peu plus de 2 ans, mais ça fait 10 ans que vous vous suivez pratiquement.
Ouais, c'est ça, ouais. On a créé en 2014, mais on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Déjà très tôt dans notre cursus, on a commencé à travailler ensemble.
Et du coup, c'est encore une autre histoire. On le verra tout à l'heure aussi avec vous, Amandine Chor. C'est vraiment une histoire de ping-pong là quand on crée à deux. Et pourtant, je lisais une interview. Vous dites que le temps de création pour vous, c'est 1% du projet seulement.
Ça, c'est sûr, parce que on parle de la création, le concept de l'objet et sa formalisation, mais derrière le développement avec l'industriel,
ça,
en général,
beaucoup plus long, là.
Ça s'étale souvent sur plusieurs mois. Des fois, il faut trouver des solutions techniques, ça prend un peu de temps, il faut aller chercher des spécialistes. Donc, effectivement, ce que j'appelle le temps de création, c'est le temps de dessin, il est assez court.
Donc c'est assez court. Et après, il y a toutes les étapes, outils informatiques, bien sûr, désormais.
Outils informatiques, dialogue avec les spécialistes, prototypage, et en général,
C'est lui qui va aussi décider si derrière, il peut être développé par un éditeur, et si l'éditeur prend le risque de vous suivre là-dessus.
Et voir, en général, on va prendre nos précautions, on va avoir un éditeur avec un premier prototype qui permet déjà d'écarter un certain nombre de problèmes.
De convaincre.
Et de convaincre.
Combien de temps, du coup, il faut entre justement le dessin et la sortie, enfin, vous voyez, l'objet terminé,
ça, c'est une bonne question. Entre le moment où on commence à avoir une idée, on commence à la poser un peu en dessin, et où finalement on peut voir sa création dans un magasin.
Vous pouvez la présenter à Maison et Objets ou dans un magasin.
C'est pas rare qu'il se passe plus d'une année, voire deux.
Wow. C'est à peu près pour vous tous. Ce temps-là, c'est à peu près le même. Et aussi, comme vous dites, c'est un acte de création, mais on le voit pour la littérature, tu peux écrire un livre très vite, et puis des fois, c'est des années. Vous rejoignez ce qu'il dit, le temps de création est très court, c'est après tout le développement qui va être beaucoup plus lent.
Le temps de création est très court, alors après, c'est variable.
Ça dépend des personnalités.
Voilà, tout à fait, les projets. Le temps de développement est très long. Après, selon les projets, il va y avoir des temps qui vont être encore plus longs. Je pense notamment aux chaises, aux assises, qui demandent d'autres contraintes d'empilabilité, d'ergonomie, où il faut tester. Du coup, il y a beaucoup de prototypes et ça peut prendre un temps qui est encore plus important que, par exemple, un vase ou un objet de décoration, qui va être plus rapide à être mis au point. Mais le temps de développement, c'est aussi ce qui est là où le projet va vraiment aussi s'inscrire justement dans un contexte et pour
dans une réalité
et pour répondre aux enjeux auxquels on le destine. C'est que du coup il va, selon les contraintes de coût, les savoir-faire, les contraintes techniques, ça va évoluer et ça peut changer beaucoup entre le dessin et l'arrivée.
Chez ACAL Studio, de quel objet vous êtes le plus fier aujourd'hui? Vous allez me dire le prochain, j'imagine.
Oui, c'est souvent ça. Mais oui, mais c'est
vrai. L'habitude.
Oui, on a une réponse type peut-être, mais c'est vrai que on n'a pas, on reste pas sur un projet en se disant c'est mon bébé et voilà, c'est lui qui. Après, on a, en fait, on évolue aussi au fur et à mesure du temps dans notre processus créatif. Quand on est deux en plus, je pense que on se confronte aussi, on confronte nos regards et on n'est pas toujours d'accord. Donc ça fait avancer les choses et notre réflexion n'est pas la même que depuis le début. Et puis je pense qu'au fur et à mesure des créations, enfin des collaborations qu'on a avec les éditeurs et les entreprises, c'est plutôt ça en fait qui nous rend fiers entre guillemets, c'est plutôt la façon dont on peut construire une relation avec une marque.
Alors, on revient, on vous posera encore la question, Anna. Est-ce que quand on crée comme ça, on réfléchit, alors bien sûr avec des éditeurs, l'important c'est de créer un objet, de le dessiner, de lui donner une esthétique, d'espérer qu'il va être produit, c'est réel. Est-ce que vous pensez quand même, parce que parfois pour en avoir reçu souvent ici des designers ou des architectes d'intérieur, c'est pas les mêmes métiers, il y a une vraie sincérité esthétique, mais on a l'impression qu'ils sont complètement zappés le public. Est-ce que vous, lorsque vous dessinez une chaise, une trottinette, vous pensez que tout de même au public, on va dire, ça va marcher parce que je réponds quand même à une demande et qu'il soit pas simplement une demande esthétique, mais une fonctionnalité. Est-ce que vous pensez un peu au public?
Les usages.
Des fois, les designers, admettez qu'il y en a certains qui ne doivent pas y penser un seul instant.
Après, ça dépend vraiment du type d'objet qu'on va travailler. Finalement, si on travaille sur une chaise, l'usage. C'est de s'asseoir.
Oui, mais elle pourrait
s'asseoir. Oui, mais alors justement, c'est de s'asseoir. Mais il y en a beaucoup qui s'arrêtent là. Et je trouve que la part du designer, c'est un peu court, messieurs, mesdames. Donc pour vous, designer, vous avez fait des études, vous faites votre métier. La seule chose que vous trouvez à lui dire, c'est qu'une chaise,
on peut s'asseoir dessus.
Bah, moi, j'attendais d'un designer qui me dise, il faut qu'elle soit confortable, il faut qu'elle soit ceci, cela.
Ouais, on peut aller plus loin. On peut faire une chaise pliante, une chaise qui va se ranger. On peut faire une chaise qui va s'empiler pour les terrasses, les choses comme ça. Donc évidemment, il y a des fonctions qui peuvent se rajouter comme ça. Et puis des fois, c'est des projets qui sont un peu plus conceptuels et qui vont être drivés par un nouveau process, un nouveau matériau. On en a un peu parlé tout à l'heure. Et auquel cas, ça va pas forcément avoir un usage commercial directement, mais ça va venir enrichir des démarches
pour d'autres designers. Une autre façon, notre rapport à la vie, à l'objet.
Ouais, absolument.
Allez, très rapidement, il nous reste juste une minute. J'aimerais que chacun d'entre vous nous disiez où on, parce que maintenant, voilà, on a parlé de tout ça. Le salon maison objet, c'est professionnel, mais les gens se disent peut-être, ouais, d'accord, mais maintenant, où est-ce que je vais pouvoir trouver l'un de vos objets, ou au moins regarder l'un de vos objets? Julien Vermelin.
Alors, moi, pour acheter, me contacter.
Sinon, vous êtes dans une expo en ce moment, à l'hôtel de ville.
Là, je suis sur Nolohoff, à la Cité de la mode et du design. Doc en scène. Là, à l'Hôtel de Ville, à partir du 7 septembre, sur Made in Paris. Et voilà. Ensuite, il y aura les 10 ans des ateliers de Paris, à partir du 22 novembre, à l'Hôtel de Ville aussi. Ouais.
Là, il y aura tout le monde.
Parfait. Nathanaël, désormais.
Alors, on a beaucoup parlé d'ameublement. Au studio, on travaille aussi sur des sujets qui sont différents. Le dernier né du projet, c'est une trottinette qui s'appelle La Galoche. Et qu'on a présenté pour la première fois au salon, qui a reçu un très bon retour de la part des distributeurs notamment. Et du coup, on espère l'avoir sortir au printemps prochain dans des grandes enseignes, des grands magasins.
Eh ben super, chez ACAL Studio.
Alors nous, on a aussi pas mal de projets en cours. On travaille avec ce que vous avez pu voir sur le salon sera présent chez Artaud et Petite Friture et Can Design. Puis en janvier, on présentera un vase qui est issu d'une collaboration avec un artisan céramiste japonais. Et en 2017, une collection de mobilier en rotin et voilà d'autres.
Ah mais ça va, les projets, les cartes sont pleines.
Et Charlotte Julliard.
Moi, actuellement, jusqu'au début octobre, aux arts décoratifs. Non, au
107 voilà. Rivoli, la boutique, c'est vous qui avez tout scénographié. Mais la
non,
vitrine.
Alors j'ai eu, oui, voilà.
Bah, c'est déjà pas mal.
J'ai des pièces dans une.
Puis vous serez certainement tous, vous l'avez évoqué, à ce salon, qui est des 10 ans des ateliers de Paris, j'imagine.
Il y aura une exposition
tous,
à l'hôtel
cette
de
exposition.
Exactement.
Qui promet beaucoup.
Qui sera
on verra la galoche. Alors.
Absolument.
Ça vous plaît, tout le monde pourra se galocher. Merci infiniment à vous, en tout cas, Amandine.
Merci.
Amandine Shore pour le studio design ACL. Au passage, on va saluer Aïssa Logeray quand même.
Aïssa Logeray, oui.
Logeray, votre binôme. Nathanaël, désormais, merci beaucoup à vous. On a salué déjà votre binôme Damien Carrette, Julien Vermelin. Merci beaucoup à vous. Et Charlotte Julliard, merci beaucoup à tous les quatre. Et bravo, bonne continuation. Vous restez avec nous, hein, Goulex Paris. Attention, c'est pas terminé. Dans quelques instants, ce sera l'agenda. On va parler high-tech aussi. Mais tout de suite, c'est le livre de la semaine.
Goulex Paris, l'édition du week-end. Le livre de la semaine.
Et le livre de la semaine, ça va vous plaire, Emmanuel, c'est le nouveau livre de Loïc Prigent. Loïc Prigent, c'est ce grand connaisseur de la mode qui a fait plein de documentaires dans les coulisses. C'est peut-être celui qui connaît mieux le milieu de la mode.
Aujourd'hui, mais aussi c'est l'un des grands spécialistes.
Oui. Il a un regard extérieur, il a fait plein de documentaires avec Mademoiselle Agnès, il est allé dans toutes les grandes maisons de luxe. Et du coup, il traîne toujours ses baskets dans les studios de création, dans les défilés, dans les backstage, c'est-à-dire là où on maquille aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il tweet. Il tweet. Alors ça fait des années qu'il tweet, vous retrouvez tous ses tweets sur Loïc Prigent, le tweet de Loïc Prigent. Et il les a mis dans un bouquin qui vient de sortir aux éditions Grasset, ça s'appelle Pépiment de la mode. J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste. Juste, je vous en donne quelques-uns.
Parce que c'est tellement bon. Très bon, très juste, très drôle.
Pour le thème de la collection, on hésitait entre porcelaine russe et fluo techno. Alors vous avez fait quoi du coup? Panthère léopard. Voilà. Elle a un beau visage, mais il faudrait éliminer le front. Je sais qu'il y a des gens qui meurent dans le monde, mais un problème à la fois, commençons par tes cheveux. Enfin, voilà, vous voyez le niveau?
C'est le niveau, mais en creux, et c'est ce qu'il y a de très réussi dans son livre et dans ses tweets, surtout de les avoir réunis comme ça, c'est qu'en creux, toute la petite comédie humaine de ce grand petit monde, parfois très grand et parfois tout petit, de la mode, eh bien, sans finalement vouloir faire un roman, le décrypter, juste par des phrases saisies comme ça,
et
il le raconte
vrai,
à la perfection.
Hein.
Et tout ça est vrai. Il reprend finalement la matrice de Gouriot, vous savez, qui avait fait les fameuses brèves de comptoir, et qui racontait certainement un
les
monde et un Paris, c'est ni plus ni moins que des tweets de mode. Simplement, il fallait avoir l'oreille. Et puis tout de même le talent d'écriture de Prigent pour pouvoir réussir ce pari-là. Beaucoup de gens s'y seraient cassés, brisés les reins, et le bec, et la suite,
pas lui.
Et
alors, ce qui est très savoureux, c'est que ce sera lu aussi par Catherine Deneuve dans des programmes courts sur Arte du 26 septembre au 7 octobre.
Mais ça va marcher,
voilà,
tout comme les brèves de comptoir doivent beaucoup aussi à tous les acteurs qui en avaient fait des pièces. Puis des
faudrait peut-être aller faire la même chose du côté des spécialistes de l'high-tech. Tous ces milieux où finalement on utilise un vocabulaire
mais on comprendrait rien.
Génial, on n'y comprendrait rien, c'est la chronique high-tech.
BFM Business, Goodelux Paris, l'édition du week-end.
Et pour la chronique High Tech, on reçoit Christopher Siminelli. On retrouve surtout comment
on retrouve.
Bah super. Voilà, les vacances c'est super. Super rentrée.
Super. Vous êtes bronzé. 0 à 1 net.com. Vous êtes remis à bosser. La grande nouveauté, c'était l'iPhone 7 cette semaine. Ça y est, on
c'est
sait tout. C'était l'événement de la rentrée. Donc voilà, hop. Ça, on connaît, sauf que maintenant, eh ben, il va falloir en faire quelque chose. Il va falloir l'accessoiriser. C'est ça, le luxe.
Voilà, on sait tout de l'iPhone 7. On sait que l'iPhone 7, c'est un objet précieux. Et la première précaution qu'on prend avec son iPhone 7, c'est qu'on veut surtout pas le perdre. Alors, il y a des solutions pour ça. Regardez, c'est ces petits objets qui sont hyper design. Cette société s'appelle Tile. En fait, qu'est-ce que c'est? Vous mettez vous associez votre iPhone 7 à ce petit récepteur. Ce récepteur ultra fin, vous voyez,
donc
vous le mettez
un
petit carré blanc. Vous le mettez dans votre portefeuille. Ça vous permet deux choses. La première, c'est avec votre iPhone, vous pouvez situer votre portefeuille si vous l'avez perdu. Vous pouvez visualiser sur une carte à quel endroit il est. C'est génial. Mais de même, si vous avez votre portefeuille avec vous et vous savez pas où vous avez mis votre iPhone 7, c'est quand même malheureux. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici au milieu et ça fera sonner votre iPhone et vous pourrez le retrouver. Donc, c'est super pour ne pas perdre quand même un iPhone.
Des Français ont développé ça?
Alors, c'est pas des Français, c'est pas une invention nouvelle, ouais. Mais en tout cas, cette société, elle met vraiment l'accent sur le design, même si bon, là, c'est pas ce qui fait
l'intérêt du produit.
Ça se met dans le porte-carte, c'est ultra fin et c'est surtout hyper pratique. Ça coûte ça coûte une vingtaine d'euros. Et là, on est à 34 €.
Donc,
franchement, c'est un tout petit investissement pour pas perdre un objet qui coûte quand même très cher.
Un peu plus cher. T-I-L-E. Autre accessoire.
Alors, autre accessoire.
Alors,
l'iPhone 7, on l'a vu, il a un super nouveau capteur photo avec des mégapixels, etc., etc. Bon, et puis c'est pas tellement original de regarder ces photos sur son iPhone. Le top de la sophistication, c'est quand même de pouvoir les tirer avec cette petite imprimante qui vous permet de tirer des vrais Polaroids. Mais vraiment, c'est pas une petite imprimante de poche, ça tire des vrais Polaroids. C'est très sympa. Regardez, j'en ai fait moi-même.
C'est épaisse, ça, cette imprimante.
Les enfants de Christopher.
Avec mes enfants, voilà. Et donc, c'est très mignon et ça permet vraiment d'avoir cet objet, cette approche hyper physique avec l'objet photo.
Un peu plus sensuel.
Voilà, ça pèse combien, ce petit truc-là?
C'est assez léger. C'est moins de 100 grammes. Ah, ça fonctionne sur batterie. Vous pouvez l'emporter partout avec vous. C'est super pratique.
Nouvelle soirée photo.
Soirée photo.
L'Instashare SP2.
Voilà.
Et puis, alors ça, quel est ce bel objet?
C'est un portefeuille, ça? C'est le coup de cœur.
Alors, attendez, je voudrais voir. Ah bon, le coup de cœur.
Regardez, c'est une société...
Ça fait quand même pochette, ça.
C'est une société qui s'appelle De Rigueur, qui est une très belle histoire dans la maroquinerie française. Et ils se sont dit... on va nouer à la fois la tradition de la maroquinerie et les nouvelles technologies. Donc c'est vrai qu'en apparence, c'est des portefeuilles tout à fait classiques. Comme ils sont très jolis, avec un
grand format quand même, version grand format.
Plutôt féminin. Hein,
ouais, plutôt féminin.
Épaisseur d'un petit bouquin.
On dirait pour un petit
voilà.
sac à main.
Et donc, cuir de veau plein de fur, très belle qualité, assemblé à la main. Et la particularité, c'est que ces portefeuilles intègrent une batterie. Figurez-vous. Et cette batterie, elle vous permet, une fois que, imaginez qu'avec votre iPhone 7, ou bon, là on peut dire ça fonctionne même avec n'importe quel smartphone, vous l'activez en mettant la main ici 5
juste
secondes,
le doigt,
vous posez votre iPhone sur le portefeuille,
et il se recharge.
Et ça le recharge par induction, donc par onde électromagnétique. C'est,
c'est un
standard qui est
une
hyper
pochette
répandu.
Cuir masculin-féminin qui aussi recharge...
vous permet de recharger votre téléphone quand vous êtes en rade. C'est hyper pratique. Il y a l'équivalent de deux charges pleines de batterie. Et donc, ça peut vraiment vous sortir voilà.
J'ai une question idiote. Après, il faut recharger le portefeuille.
Ah, très, très bonne question, Karine. Très, très bonne question. Et donc, pour le recharger, il y a une toute petite prise.
Toute petite prise planquée sous la fermeture éclair. Ouais.
Très bien pensée, très bien intégrée. Et tout simplement, ça peut paraître ubuesque, mais vous allez recharger votre portefeuille le soir en rentrant si vous l'avez utilisé. Et donc, après, c'est un portefeuille tout à fait classique.
Et c'est joli savoir-faire marocain.
C'est une très, très bonne idée. Ce sera disponible à partir du mois d'octobre. Il faut compter environ 200 €. 250 €, c'est disponible en marron, en noir. Il y a d'autres coloris qui arrivent. Et surtout, pour 2017, c'est vrai que moi, en tant que je suis un peu frustré parce que je trouve
c'est génial.
Il y aura la version mail.
Il y aura, il y a des projets. C'est entre nous, mais il y a des projets pour les hommes qui arrivent.
Super. Merci beaucoup, Christopher. Vous restez encore 30 secondes. Enfin, pas 30 secondes, mais 3 minutes avec nous. C'est l'agenda tout de suite.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
J'adore, c'était la première vente de la saison.
Mais alors pas pendant 3 minutes, vous n'avez pas 3 minutes.
De toute façon, ça va être aussi un prétexte. On va quitter un peu Paris, on va en Normandie, on va pas loin, le temps des week-ends va commencer. Donc le dimanche 18 septembre, vous êtes à Katz, c'est en Normandie, c'est du côté des plages du débarquement, c'est du côté de la Manche. Il y a un musée célèbre qui s'appelle le musée des tanks, c'est 35 ans de collection, un père, ses fils, la famille Nerman. Et ce musée et une partie de cette collection va être mise en vente, orchestrée par Arcurial. Donc c'est une vente, et c'est la première du genre, dédiée au D-Day. C'est-à-dire que les Nerman, ils ont collectionné depuis 35 ans les chars, les Dodge, à la fois tous les engins qui ont débarqué le 6 juin 44, mais aussi tout l'univers qui a accompagné, c'est-à-dire les uniformes, tout aussi bien en américain, anglais, canadien, australien. Il rend hommage aussi à ce qu'était au moment du débarquement la France, c'est-à-dire qu'on voit, il va être mis en vente, une véritable traction avant qui incarnait celle des FFI, et également aussi des pièces de l'univers et des armées allemandes. C'est assez touchant parce qu'il y a d'abord des pièces qui ont été remarquablement restaurées. La scénographie, il faut aller le voir, le lieu d'exposition les 16 et le 17, ça commence dès le vendredi, vous allez découvrir le dîner
en direct. Et ça se passe en Normandie, donc à Cahors.
Vous pouvez donc devenir acquéreur d'un char Sherman par exemple, le mythique char Sherman, le M4, entre 200 000 et 400 000 euros.
Parfait.
Pour balader en char à Paris.
Je n'achète pas. En revanche, on est peut-être parfois à peu près sur les mêmes tarifs, mais c'est tout autre chose. Je vous ramène Place Vendôme à Paris, Van Cleef & Arpels, qui présente son Arche de Noé. Et quand le grand geôlier de la Place Vendôme présente son Arche de Noé, Nicolas Beauce était venu nous en parler au mois de juin dans Good Luck Paris, il nous avait un petit peu annoncé ça. La nouveauté, c'est que c'est ouvert au public. Donc vous allez à l'hôtel d'Evreux et vous découvrez tous ces petits animaux qui sont présentés par couple. Tous ces petits. Alors il y a toutes les familles. Quoi. C'est comme l'Arche de Noé, les petits pandas, les petits lapins, les petits tout ce que vous voulez. C'est so cute et surtout, ça représente aussi le savoir-faire de cette maison de haute joaillerie avec toutes ces créatures imaginaires. La scénographie, c'est important de préciser, et le design, c'est Robert Wilson. Comme on n'a plus le temps, j'enchaîne rapidement parce qu'après, il sera trop tard. Puisque vous êtes Place Vendôme, vous n'allez pas très loin. Vous allez à la Monnaie de Paris qui accueille la 7e édition de AD Intérieur. 14 décorateurs qui mettent à l'honneur, là aussi, les artisans, les savoir-faire. En fait, ils créent des pièces imaginaires entièrement. Oraito, Joint Moncou, ça vous dit quelque chose, mais aussi Fabrice Osset, Bismuth et Bismuth, Tristan Auer, Otiem Poto, c'est un duo franco-portugais. Voilà, une belle exposition à voir. Là aussi, c'est ouvert au public. Et c'est le savoir-faire français. Voilà,
Van Cleef, faut y aller. C'est vraiment la première fois qu'une maison joaillière dévoile ses collections comme cela, les ouvre au public. Ça s'est jamais fait. C'est là aussi on voit que Vendôme commence à entrouvrir, être beaucoup plus ouvert au public. Et c'est un lieu aussi que vous allez voir, l'hôtel d'Evreux. Faut avoir la chance de passer derrière la façade. C'est assez rare. Bravo à eux et allez le voir. Franchement, c'est une création. C'est émouvant.
Et c'est terminé. Merci infiniment, Christopher Cheminelli. On vous retrouve très bientôt dans Good Luck Paris. Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.
La semaine prochaine, oui, mais enfin, je serai quand même à 4.
Et en tout cas, Good Luck Paris, c'est aussi tous les jours de la semaine. Je vous retrouve dès lundi en direct à 14h. À bientôt.
BFM Business, Good Luck Paris, l'édition du week-end.